Bonjour. Alors, aussi à tous ceux qui nous écoutent sur Internet régulièrement, merci de votre fidélité. On est toujours dans la série de l'Exode, de livre d'Exode, c'est le deuxième livre de la Bible. Et notre thème, c'est être libre pour 2016. Si vous vous souvenez, il y a deux semaines, je vous ai posé une question. Qu'allez-vous faire le 17 avril 2033 ? Vous avez bien rigolé, mais je vous rappelle que le 17 avril 2033, c'est Pâques. Et sur toute la Terre, à chaque fuseau horaire, les chrétiens du monde entier vont célébrer les 2000 ans de la résurrection de Jésus. Donc, pas besoin d'attendre 2033 pour vivre la Pâques, pour vivre cette réalité que Jésus est bon. Mais préparons-nous à qu'est-ce que Dieu veut faire pour 2033 ? Commençons à me connaître et je vais vous poser une deuxième question. Qu'allez-vous faire fin juillet, début août en 2020? Est-ce que vous savez déjà? Non, hein, je pense pas. Ben moi non plus, je le sais pas. Mais en tout cas, je vous invite déjà à prier pour une personne. Et cette personne, elle s'appelle Laurie. Laurie, elle est avec nous ce matin. Bienvenue. On est content que tu nous visites. Laurie, en 2020, elle sera à Tokyo, au Japon. Pourquoi? Parce que ce sera les Jeux Olympiques d'été. Et puis Laurie elle sera sûrement notre championne canadienne en VTT. Celle qui va peut-être remporter la médaille d'or. Alors Laurie, je ne sais pas si c'est la médaille d'or qui est devant toi. Mais sache qu'ici, tu as une église qui prie pour toi. Parce qu'on veut te libérer. On croit que Dieu t'a donné des dons exceptionnels dans ce sport. Et puis face à la pression de tes collègues sportives, des entraîneurs, face à l'ambiance, on prie que tu puisses être non seulement une lumière, mais que tu puisses être protégé, mais surtout que tu puisses mettre tes dons. Dieu t'a donné un corps extraordinaire, des talons, des muscles, tout. Bah, sois béni, Laurie. On prie vraiment que d'ici 4 ans, ça va aller très vite. Pour nous, peut-être un peu plus lentement, mais pour toi, tu as cet objectif-là. Alors on prie. Puis je vais vous poser une autre question, puisque vous avez compris que j'aime les questions. Qui peut me dire en un mot ce que Luc nous a partagé dimanche passé? Qu'est-ce qui a ruminé en vous tout au long de cette semaine? Ouais, merci Caroline, je le répète, Caroline a dit le mot « les détours ». C'est vrai. Luc nous a partagé en quelques mots la semaine passée la beauté des détours dans notre vie, même si on ne comprend pas toujours. Je répète un peu avec mes mots ce que Luc nous a partagé. De son immense amour, Dieu nous fait vivre des détours dans nos vies. Le détour, même si on ne le comprend pas toujours, nous permet de prendre du recul pour affronter le prochain défi. Dieu forme notre caractère pendant le détour. Il affermit la vision qu'il a placée dans le cœur de chacun. La vision. Dieu a mis des choses en nous et dans le détour, on peut pas aller vite, on va lentement parce que c'est un chemin inconnu et Dieu prend son temps à ce moment-là de nous former. Parfois, on oublie que le détour fait partie du plan de la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu veut nous communiquer ses intentions, ses plans. Il veut vivre avec nous le partenariat. Toi et moi. Dieu et moi. Ou bien moi et Dieu. Dieu a une vue sur l'ensemble de notre vie. Elle prépare avec tendresse chacune de nos étapes. On ne sait pas pourquoi on doit faire ce virage, ce détour, mais Dieu le sait. Parce que si on avait été tout droit, on serait peut-être dans le champ. Dieu veut des projets de paix et non de malheur. Ça, c'est le verset préféré de Lise dans Jérémie 29, 11. Jérémie 29, verset 11, c'est dans la Bible. « Car Dieu a des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir rempli d'espérance. » Donc, dans le détour, Dieu désire se rapprocher de chacun. Et il met en place son plan. Si vous faites des fois des jeux de société, il y a le jeu Carcassonne, où chacun peut avancer ses pions. Et quand il avance, il doit penser à créer des ponts, des maisons, puis il essaie d'étudier les adversaires des autres, les tours des autres pour pas qu'on vienne lui voler son chemin. Ben Dieu, il nous utilise pas comme des pions. Il nous place à côté de personnes pour que son plan se réalise. pour que la gloire de Dieu descende sur la terre. Dieu ne joue pas avec nous. Il veut nous rendre libres. Il nous donne de faire partie de sa bénédiction. Si je pouvais donner un titre au message aujourd'hui, je dirais « Soyons le changement ». Tout obstacle est fait pour être déplacé. Je vais vous montrer une petite vidéo maintenant que vous trouvez sur YouTube. Ça s'intitule en anglais « Be the change ». Soyons le changement. C'est une chanson de Sébastien Desmarais. Et dans ce petit clip qu'on va voir, dans la chanson que Sébastien chante, sa chanson nous dit qu'il nous invite à faire tout ce qu'on peut faire, à être l'espoir de ceux qui vivent dans la difficulté, à tendre la main, à partager ce que tu peux à celui qui est dans le besoin, à être le changement. Alors pendant qu'on regarde la vidéo, on voit peut-être pas très bien, mais je vous rappelle juste que nous sommes en plein trafic dans une ville en Asie. Ça klaxonne, les chauffeurs sont pas contents. Dans les bus, les gens se chialent, se plaignent. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros arbre qui est tombé au milieu de la route. Et on voit un petit garçon qui se lève, qui a entendu toutes ces plaintes, tout ce chialage. Il était d'accord de proposer une autre voie, de faire quelque chose de différent. Ce qu'il a fait, c'est que il est allé déplacer cet arbre. Il n'a pas vu tout le poids de cet arbre, il n'a pas vu la grosseur de cet arbre, mais il a dit « je veux faire partie du changement ». Puis bien sûr, la pluie est arrivée, qu'au début, on se moquait de lui. Mais ce qui est extraordinaire à la fin de ce petit clip, c'est que tout le monde sort de leur voiture, même sous la pluie, et vont pousser cet arbre. Et pour finir, l'arbre est déplacé et les voitures peuvent circuler. Soyons le changement. Le miracle se produit quand on fait notre part. Avec 5 pains et 2 poissons, Dieu a nourri une foule. C'est ce que Dieu attend d'entre nous. Dans son temps au désert, Jésus a reçu la visite du diable. Je crois que le diable signifie le diviseur. Et malheureusement, il est encore à l'œuvre aujourd'hui. Très souvent, le diable, il met en nous le doute sur la bonté de Dieu. Il aime semer la discorde dans nos familles, dans nos couples. Il met des nuages noirs dans nos pensées. Et il prend plaisir à nous faire tomber. Et surtout, il essaie de nous garder à terre. Parfois, il enlève le goût de la lecture de la Bible et vole notre temps de prière. Mais ce que le diable aime par-dessus tout, c'est de nous isoler, de nous faire croire que personne ne pourra nous comprendre. Il aime nous stresser, nous rendre fort occupés, il dit par là, indispensables. Et dans nos déserts, on ne sait pas toujours si c'est une attaque du diable ou si c'est un détour voulu de Dieu. Dimanche passé, Luc nous a lu Exode 13, « Dieu fit donc faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer des roseaux. » Avant d'entrer dans le pays de Canaan, 40 ans plus tard, voilà ce que Moïse dira au peuple d'Israël. Dans Deutéronome 8, « Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur et si tu observerais ses commandements, oui ou non. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi. Ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 années. » Waouh, le même t-shirt pendant 40 ans. « Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son fils. » On n'est pas des marionnettes devant Dieu. Tu nous l'as rappelé ce matin que Christ vit en nous. Que Christ a reçu toute l'affection de son Père. Nous sommes aussi au bénéfice de l'affection de Dieu le Père. Nous sommes ses fils et ses filles. Et la vie est pleine d'imprévus. Et ce n'est pas toujours facile de faire face aux surprises. Véronique l'a appris ce matin. Tout d'un coup, je dois diriger la louange. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est, mais... À Jeunesse en Mission, des fois, on dit ce proverbe en plaisantant qu'il y a quelque chose qui nous arrive un peu qu'on n'était pas prévu. Heureux les souples, car ils ne seront pas courbés. Facile à dire, pas toujours facile à vivre. Mais je crois que dans nos journées, nous sommes responsables de nos réactions. Quand ça va mal, qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, on peut soit chialer, soit partager ce qui nous heurte, soit appeler un ami pour lui dire « J'ai besoin de toi. Peux-tu prier pour moi ?» En tout cas, j'ai réalisé que dans ma propre vie, le chialage, les plaintes viennent souvent après mes plus belles victoires. Le peuple d'Israël est dans le désert, au chapitre 15. Le peuple d'Israël a vécu 430 ans en Égypte et à la fin, ça s'est gâté, ils sont devenus de plus en plus esclaves de travaux forcés. Ils ont vécu les 10 plaies. Leur foi a grandi. Ils ont vu Dieu à l'œuvre. Ils ont pu sortir de l'Égypte. Ils ont pu traverser la mer Rouge à sec. Une victoire extraordinaire. Ils ont vu le Pharaon et ses meilleurs soldats mourir. Waouh ! Dieu est avec nous. Waouh ! Et pourtant, quand ils ont vu le surnaturel de Dieu agir, qu'est-ce qui s'est passé peu de temps après ? La Bible nous dit dans Exode 15 qu'ils marchent depuis 3 jours dans le désert. Ils ont soif. Il n'y a pas d'eau. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous ? » L'eau de cette région est amère. Le peuple se met à protester. J'ai grandi dans une ferme et chaque mois, mon père recevait de nouveaux jeunes veaux. Puis à un moment donné, il devait sevrer chacun de ces veaux. Puis le veau donc, doit apprendre à passer du lait à boire de l'eau. Ben, pendant 3-4 jours, chaque mois, 3-4 nuits, je dormais très mal. Parce que 25 petits veaux qui chialent, ça fait du bruit. Puis en Suisse, les fermes, ce n'est pas une habitation séparée comme au Canada. La porte de ma chambre donnait quasiment sur la fenêtre de la chambre des veaux. Ça faisait du bruit, mais c'était juste 25 petits veaux. Moïse, là, se retrouve à 2 millions de personnes, plein de troupeaux. Puis après 3 jours, quand on a soif, ça chiale fort. C'est comme quand on voit un match de hockey ou de soccer, qu'un arbitre qui fait une erreur, la foule dans les gradins, quand elle se lève, ça crie. Quand le peuple s'est mis à chialer dans le désert, Moïse a trouvé une solution. Il crie à Dieu. Et Dieu lui dit, regarde, il y a un bout de bois là. Et Moïse prend le bout de bois, le jette dans l'eau, et l'eau devient buvable. Waouh ! Je chiale, je crie à Dieu, ça marche. Quelques jours plus tard, le peuple arrive au désert de Sin. Exode 16. Toute l'assemblée des Israélites murmure contre Moïse et Aaron dans le désert. Les Israélites leur dirent, mais pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte ? Que nous étions assis près des marmites de viande, que nous mangeons du pain à satiété. Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour nous faire mourir de faim, toute cette assemblée. Cette fois, le peuple ne chiale plus contre Moïse, mais contre Moïse et Aaron. On a l'impression qu'ils cherchent des boucs émissaires à leurs problèmes. Quand on chiale, on pense toujours que l'herbe est meilleure derrière la clôture. Ils ont tendance à oublier le but de la marche. Ils ont oublié qu'ils étaient esclaves en Égypte. Ils ont oublié que Dieu avait dit à Abraham, « Un jour, le pays de Canaan sera ton pays. » C'est tellement plus agréable quand un immigré peut dire, « Mais non, je suis chez moi. » Ça change tout. Quand j'ai reçu mon passeport canadien, j'ai dit, « Waouh, je suis vraiment un Canadien. » Ça fait toute la différence de passer du statut d'immigrant à Canadien. Le peuple d'Israël était en route vers leur propre pays. Ils allaient bientôt pouvoir dire « Bienvenue chez nous ». Et face au chialage, Dieu intervient à nouveau. Il va encore plus loin dans sa bonté. Il dit à Moïse « Je vais faire pleuvoir du pain sur les Israélites. » Tous les matins, pendant 40 ans, il leur a pas dit 40 ans à ce moment-là, mais pendant tous les matins, sauf le sabbat, vous allez sortir de votre tente, vous allez découvrir du pain, de la manne par terre. Puis même ce soir, je vais vous gâter. Je vais couvrir le sol de caille, une sorte de volaille qui est bien meilleure que le poulet Saint-Hubert. C'est vrai que c'est bon. La caille, c'est bon. Je reconnais. Exode 16. J'ai entendu les murmures des Israélites. Dis-leur, au coucher du soleil, vous mangerez de la viande et le matin, vous serez rassasiés de pain. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Et verset 35. Les Israélites mangèrent de la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent de la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Ça, c'est Dieu qui s'engage pour nous. Mais ce n'est pas fini, moi, je ne sais pas, peut-être moi j'aurais compris ou non, au contraire, je suis comme un Israélite. Exode 17, toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Sin. Alors là, ils avaient reçu la manne, ils avaient reçu les cailles, un tout petit peu plus loin, ils ont passé par Elim, là c'était extraordinaire. Ils parcourent les étapes que Dieu, l'Éternel, leur avait ordonnées. Ils campèrent à Rephidim. Là, le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Moïse, il n'y a pas d'eau. Non, ce n'est pas ça. Le peuple chercha querelle à Moïse et ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Et Moïse leur répondit, mais pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi provoquez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, murmurait contre Moïse. Il disait, mais pourquoi nous a fait quitter l'Égypte, si ce n'est pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants, mes troupeaux. Et Moïse cria à l'Éternel. L'histoire se répète encore une fois. Faim, soif, chialage. Et Moïse qui crie à l'Éternel. Pourquoi toutes ces plaintes? Je l'ai dit avant, quand une foule se met en colère, ça fait du bruit. Quand une foule descend dans la rue pour dire son ras-le-bol avec des petits carrés rouges, ça provoque la chute du gouvernement québécois. Le peuple dans le désert se plaint. Il me semble comprendre, en lisant ces versets, que le peuple s'est senti abandonné. C'est comme si j'entends derrière cette plainte, personne ne m'aime. Personne ne prend soin de moi. Personne ne me demande des nouvelles. Le peuple a quitté ce qu'il connaissait, l'esclavage, pour découvrir une nouvelle vie. Une vie dans laquelle Dieu va se révéler régulièrement par des miracles. Ce n'est plus par leur travail qu'ils vont obtenir de la viande. Ce n'est pas par leurs bonnes actions qu'ils vont être sauvés de leur état d'esclavage. Les plaintes ne vont pas s'arrêter là. Dimanche prochain, Michael nous parlera du veau d'or. Se sont-ils abandonnés? Ils ont fait un Dieu proche de leur réalité. Pour découvrir si nous avons aussi, nous, un veau d'or dans notre propre vie, j'aimerais nous inviter à nous écouter cette semaine. Mais qu'est-ce qui se passe en nous que nous chialons? Vers qui ou vers quoi allons-nous chercher du réconfort? Le peuple a construit le veau d'or. Proverbe 4, 23 dit que nous devrions garder notre cœur plus que toute autre chose. Le mot « cœur » dans la Bible signifie notre esprit. Nous devrions garder notre esprit plus que toute autre chose. Des mauvais choix, un manque de sagesse, de l'orgueil, de l'amertume, un esprit blessé, refus de pardonner, par exemple, tout cela nous rend faibles. Moïse, on sait simplement qu'il crie à Dieu, puis il y a le miracle. On ne sait pas ce qu'il a crié à Dieu. Le roi David peut nous aider. Si vous lisez les psaumes, vous savez tous que David, c'est lui qui a tué Goliath. Mais c'est aussi lui qui a tué le mari de la femme de Bathsheba. David a fait les plus belles choses comme les plus terribles.
Pourtant, Dieu nous le décrit comme un homme selon mon cœur. Waouh! Psaume 139, il est fatigué d'être entouré d'ennemis, entouré d'être persécuté. Et il ose dire à Dieu, je les hais d'une parfaite haine. Moi, je n'ai jamais osé dire ça. Ça va loin. Psaume 13, David n'en peut plus, fatigué. Pendant 5 versets, il dit, jusqu'à quand? Jusqu'à quand tous ces malheurs? Jusqu'à quand la maladie? Jusqu'à quand cette souffrance? Jusqu'à quand? Puis il termine, moi j'ai confiance en ta bonté. David nous donne une piste. Quand on chiale, on va vers Dieu. Psaume 52, quand David a compris, a reçu le pardon face au meurtre qu'il venait de faire, il se retrouve devant Bathsheba, puis il lui dit, Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Dieu a un cœur généreux pour chacun. Qui est-ce qui dirige notre esprit quand on chiale? Sommes-nous libres ou sommes-nous remplis d'offenses, de blessures du passé? Je vous cache rien que notre tendance humaine, on préfère justifier la médiocrité. Je suis comme ça parce que j'ai vécu ça. C'est comme ça, ça ne va pas changer. On accepte des raisons, toutes sortes de raisons qui nous tiennent captifs. J'aimerais vous dire que si notre esprit n'est pas indisposé, c'est visible. Que notre esprit va alors imprégner tout ce qu'on fait. Notre esprit pollué va alors transpirer. Même si on ne dit rien, même si l'esprit en nous n'est pas libre, notre message va être contaminé. Et j'ai une bonne nouvelle, Dieu veut nous rendre libres. Ce que Dieu veut faire dans nos vies est bien trop important pour être saboté ou dirigé par un esprit qui est blessé. Un esprit bien disposé ouvre la possibilité à Dieu d'agir, nous donne des opportunités. Il y a un peu plus de 10 jours, je suis allé dans la prison avec Sylvie, Ida, Lise, Caroline et quelques catholiques, dans la prison des femmes à Joliette. Avec Daniel Lomonière, on a préparé une sorte de pèlerinage. C'est tout un défi d'aller en prison et de pouvoir dire « J'ai la réponse, Dieu m'a sauvé, je veux te dire que Dieu va te sauver aussi. » On a essayé de tourner un petit peu le message à l'envers. Est-ce qu'on est d'accord de se laisser rencontrer par ces femmes dans la prison? Qu'est-ce qu'elles veulent nous dire? Pour qu'après, en retour, on puisse partager. Et on s'est mis d'accord ensemble pour arriver dans la prison avec une phrase que Jésus a dite sur la croix. « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je vais vous dire que Dieu a été extraordinaire dans cette soirée-là parce que non seulement il a répondu à mes prières, je crois qu'à la prière de plusieurs, vous allez l'entendre dans un tout petit moment, mais je peux vous dire que 15 femmes de la prison sont venues à la chapelle ce soir-là. D'habitude, elles étaient jour 2 ou 3. 15. Et chacun, on était 2 hommes, donc j'ai dit chacun, 26 femmes, 2 hommes on était, on a partagé une expérience personnelle sur le pardon, sur l'abandon, pardon. Et on a analysé cette parole du pardon, cette parole de Jésus. Oula. On a analysé ensemble cette parole de Jésus qui a dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors je vous invite, les 3 dames, là, je crois qu'Ida allait à la garderie, Caroline, Sylvie, Lise, de venir. C'est une des prisonnières qui a dit, mais après nous avoir tout entendu parler de notre expérience d'abandon, qui a dit cette phrase, vous avez vu, Jésus sur la croix, il n'a pas dit, Pierre, Matthieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Il a dit, Papa. On a réalisé que toutes nos souffrances d'abandon venaient trouver une racine à la maison, dans nos propres foyers. Et puis cette prisonnière, elle disait, Joanne, elle disait, Jésus, il n'est pas resté sur la croix. Il est ressuscité. Donc il y a un plan pour nous. Ah, c'était fort. Donc, je me laisse Caroline.
Non, faut que je commence, bon. Je pensais passer à la dernière, mais voilà. C'est ça, je ne serai pas brisée. Comme Laurent expliquait, on est rentré dans la prison, pas pour aller faire l'évangélisation, mais dans le but d'apprendre quelque chose. Fait que dans notre humilité, on a tous demandé à Dieu, « Qu'est-ce que tu veux nous montrer de cette aventure-là? » Moi, ce que j'ai appris, je m'en attendais, mais vraiment pas du tout. C'était la dernière affaire que je m'étais imaginée. Quand je suis rentrée à la prison, à cause de mon vécu, bien, j'avais déjà été en prison et tout ça. Donc, ça ne m'impressionnait pas, les prisonnières-là. Je n'avais pas peur, pas rien. Fait que tout ce qu'il y avait à l'intérieur, ça correspondait à ce que je m'attendais. Bon, je vais commencer par là. Quand on a parlé de notre abandon, on a parlé c'était quoi notre blessure à nous puis qu'est-ce que ça avait fait dans notre vie. Fait que moi, j'avais partagé que j'ai une blessure d'abandon que j'ai vécue qui, à cause de ça, Dieu m'avait donné... Comment on pourrait dire, un homme très, très sensible, de percevoir la détresse chez les femmes, de, tu sais, quand ils sont vraiment, comme on pourrait dire, au bout du rouleau et tout ça. Bon, fait que ça, c'est une parenthèse. Fait que rentrer dans la prison, tout ça, on s'assoit, ça va. Mais là, les femmes commencent à rentrer. Comme Laurent a dit, il y en avait 15 qui sont venues. Mais sur les 15, il y en a une dizaine que j'ai déjà rencontrées dans ma vie. C'est quelque chose que je ne m'attendais pas du tout. Puis là, il faut comprendre. Oui, c'est pour ça que j'ai une claque, là, ce soir-là. Ces femmes-là, elles viennent de toute l'Est du Canada, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Québec. Fait que donc, déjà, sont 100 dans cette prison-là. Déjà, quand tu en as déjà vu une dans ta vie, c'est exceptionnel. Fait qu'il y en a au moins 8 dans tout ce lot-là que je me souvenais très clairement. Je les ai toutes rencontrées dans le même contexte, dans les 25 dernières années, où Dieu m'a dit « Prie ». T'sais, quand je vous dis j'ai une sensibilité, prie. Puis des fois, je me s'obstine avec lui. Pourquoi tu veux que je prie? Elle est en train de fumer du pot. Pour qu'elle soit délivrée de sa dépendance. Puis là, il me répondait, prie. Tu ne peux pas savoir à quel point on a besoin. Fait que déjà, de reconnaître ces femmes-là, de savoir que j'avais prié. Il y en a à qui j'ai parlé. Il y en a, je leur ai dit directement que je priais pour elles. Il y en a que ça a été juste dans ma tête. Puis comme je vous dis, c'est au cours des 25 dernières années, ici dans la région, dans ma région natale, quand j'étais en visite ailleurs et tout ça. Puis c'est ça. Puis les femmes ont raconté un peu leur expérience. Puis celles qui racontaient, j'étais capable de voir. Il y en a que ça fait longtemps qu'ils sont là, il y en a ça fait 20 ans. Là. Puis ce que j'ai compris, c'est que moi, je les ai croisées probablement la veille qui rentrait dans tout ce processus-là. Fait que ce que j'ai appris ce soir-là, c'est que Dieu, il abandonne jamais personne. Ces femmes-là avaient un cheminement à faire. Il a déjà trouvé des intercesseurs. Puis l'autre chose que j'ai appris, c'est que nous, quand on veut le suivre, il sait comment nous utiliser. Fait que pour moi, ça a été une grande révélation des deux bords. Comme je vous dis, quelque chose que je ne m'attendais pas. C'était des femmes que j'avais oubliées, que je ne pensais même pas revoir dans ma vie. Mais comme je vous dis, tout un contexte. Fait que voilà.
Oui, c'est dur d'ajouter quelque chose après ça. Ouais. Moi, comment j'ai vécu ça? Au début, j'appréhendais pas grand-chose. Puis ça a été un processus qui m'a confrontée souvent. Tu sais. Ah, qu'est-ce qu'on va faire là? On va travailler avec des gens d'une autre, avec des catholiques, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Là, ça brassait, ça faisait comme ça, là, tu sais. Mais au bout du compte, ce qui est ressorti tout ça, c'est qu'à chaque fois qu'on se rencontrait, c'était l'esprit qui se manifestait. Ce qu'on avait en commun, c'est l'esprit de notre Créateur, de notre Dieu qui est vivant. C'est son esprit qui vivait à travers nous. C'est grâce, par la grâce de son esprit qu'on a réussi à bâtir un programme. Et puis, même ce programme-là, ce soir-là, les femmes sont allées au-delà de ça, en ce sens que, oui, on est arrivé avec un thème, l'abandon, pourquoi m'as-tu abandonné? On se dit au début, ah, on va y aller doucement, on va parler d'une image d'abandon. Non. Les femmes, eux autres, ils n'ont pas de temps à perdre avec ça. Ça a été vif dans le sujet, ça n'a pas été trop long. T'sais, l'abandon, ils ont exprimé qu'est-ce qu'ils vivaient, c'était quoi l'abandon, concrètement, pour eux autres. Puis moi, ce que ça a été un cœur à cœur ce soir-là, dans le sens que Tout ce que Dieu me demandait, c'était d'être vrai, d'être là. J'avais rien à apporter, il n'y avait rien à m'apporter. C'était Dieu qui était au milieu de nous, puis c'était Dieu qui faisait l'œuvre. C'est ce que j'ai senti. Puis que on était là, Laurent parlait de chiolage, mais on était là, pas pour chioler, mais pour exprimer vraiment c'est quoi pour nous l'abandon. Puis Dieu se manifestait à travers nous. Puis j'ai vraiment senti l'union de femmes. Moi, là, je vous dirais, ce qui m'a impressionnée, c'est que j'ai pas vu des prisonnières. Moi, j'ai vu des femmes libres d'être elles-mêmes. Il y avait une liberté qui était dans la salle, une liberté de s'exprimer, une liberté d'être. Pas de paraître. On n'avait rien sur nous autres. On avait les vêtements les plus simples. On ne pouvait même pas dire à travers nous qui était une prisonnière. Quelqu'un serait arrivé, là, puis... Il y en a qu'on ne faisait pas la différence. Même moi, il fallait que je m'arrête à réfléchir. Ah oui, elle. Hein. C'était vraiment une communion. Puis on sentait l'Esprit de Dieu agir. Un simple endroit où est-ce qu'on est là, puis qu'on dit qui qu'on est, puis qu'est-ce qu'on vit, puis qui est Dieu à travers ça, comment il se manifeste. Fait que moi, ça a été une rencontre superbe. Ce que je retiens de ça, c'est. Si j'ai le privilège d'y retourner, ben gloire à Dieu. Puis s'il y a quelque chose qui se construit à travers ça de longue haleine, ben c'est vraiment la gloire de Dieu. Parce qu'en passant, on a eu beaucoup de... Comment je dirais... Bon, ça fait deux fois que la dernière rencontre est annulée, soit que c'est la météo, tout ça. Fait que, comme je vous disais, on a tous été un peu brassés à chaque fois dans tout ça. Mais ça a eu lieu pareil, puis c'est la gloire de Dieu qui fait surface dans tout ça.
Mais moi, je vois vraiment qu'ils sont dans un détour, puis que vraiment Dieu est sur eux, sur elles. Puis j'étais agréablement surprise de voir le cheminement qu'ils ont fait, ces femmes-là. Puis vraiment, elles sont très, très attachantes. Puis je m'identifiais beaucoup dans elles, parce que c'est comme tout le monde. On aurait pu être, nous aussi, un mauvais choix dans notre vie, puis être enfermés. Puis j'ai été surprise, je m'attendais un petit peu à avoir de l'amertume, un petit peu de colère, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Puis non, c'était vraiment, était joyeuse, sinon quasiment plus joyeuse que ceux qui sont à l'extérieur des prisons. j'étais comme, j'étais vraiment surprise. Puis je vois vraiment la main de Dieu sur elle. Puis que ma voisine d'à côté a dit, moi je crois que c'est un temps d'arrêt pour moi dans ma vie. Je dis ouais. Puis on a tous besoin aussi à un moment donné, quand Dieu dit arrêtez, sachez que je suis Dieu. Mais je pense que Dieu permet un temps d'arrêt dans ces femmes-là, puis je pense qu'ils vont s'en sortir très, très, très fortes. Puis je suis vraiment surprise, ils ont un beau cheminement, puis c'est ça. J'ai même à la fin, j'ai demandé, il y a une femme, j'ai pu parler un petit peu vite, puis j'ai dit, donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Elle a dit, je m'en vais par là, là. Fait que, je pense que Dieu a un plan pour ces femmes-là. Puis elles m'ont vraiment bénie, vraiment, vraiment. Puis je suis contente d'y avoir été. Puis j'aimerais ça y retourner.
Merci beaucoup, Yfrongine. Ben, j'ai la chance, moi, depuis 4-5 ans dans la prison. Puis je vois des évolutions dans ces femmes. Mais une qui disait, ça faisait quelques mois qu'elle était là, je suis perdue. J'ai plus de repères. Ma chambre, c'est pas ma chambre. Il n'y a plus l'odeur de mes enfants, de mon conjoint. Je suis perdue. Puis une autre qui disait juste à côté, ben moi, je demandais à Dieu, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Puis il a envoyé la prison. Il a dit, j'étais tellement méchante, je faisais tellement de mal autour de moi que je ne savais plus comment arrêter. Puis aujourd'hui, je suis arrêtée. Wow! Elle reconnaît ça. Puis ce qui m'a touché, c'est que la plupart de ces femmes, après 3-4 ans que je les côtoie, elles sont comme David, elles ont un esprit bien disposé. Elles sont prêtes à être enseignables. Elles sont prêtes à vouloir plus. Alors la question que je me pose, que je vous pose, qu'on s'est posée avec les prisonnières, mais sommes-nous aujourd'hui enseignables? Le désert a duré 40 ans. Pour les Israélites. Les prisonnières, quand on s'est présentées tout au début, on disait, ben, Laurent, un visiteur, puis à côté de moi, c'était
Joanne, ben, je suis une locataire de ce bâtiment à long terme. Ça veut dire, ou bien c'était locataire à court terme, mais c'est minimum 4 ans. Chambreuse, oui, c'était une chambreuse. Oui, je suis une chambreuse. Mais dire que certaines femmes qui sont là, ben, elles sont toute leur vie, elles n'ont pas aucune chance de s'en sortir, de sortir de la prison. Elles sont là. Les Israélites ont vécu 40 ans dans le désert. Il a fallu la mort d'une génération pour permettre à une nouvelle génération d'entrer dans le pays promis. Parce que la génération de Moïse n'était pas prête au changement. Suis-je prêt? Sommes-nous prêts au changement que Dieu veut dans notre vie? La petite vidéo du début, c'est « Ose le changement ». J'arrive au bout, je vous pose une petite question, une petite devinette. Qui peut me dire le prénom dans la Bible de la personne qui vit dans l'abondance? Non, ce n'est pas Salomon. Ce n'est pas David, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Job. Adam, non. C'est un jeu de mots, je vous le dis, c'est Jéthro. Jéthro, il a toujours trop. Dans ce désert, alors que Moïse reçoit des plaintes sans arrêt, il reçoit la visite de son beau-père Jéthro. Et qu'est-ce que Jéthro dit à son beau-fils? Ce que tu fais n'est pas bien. Pouf! Imaginez que tu as déjà 2 millions de personnes qui respectent tous les jours, qui chialent, et voilà que le beau-père arrive, ce que tu fais n'est pas bien. Ouf! Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là, c'est que Moïse, la Bible nous dit que Moïse écouta son beau-père, fit tout ce qu'il avait dit. Moïse avait un esprit enseignable. La leçon que j'aimerais nous dire à la fin de cet enseignement, c'est que si on n'accepte pas d'apprendre, on va saboter notre futur. Qu'un jour ou l'autre, on aura besoin de quelqu'un sur notre route pour nous protéger de nous-mêmes. Est-ce qu'on va accepter alors leurs conseils? En plus de ma chère Patty à mes côtés, moi je suis heureux d'avoir Luc et Michael qui constamment sont avec moi tous les jours. Je suis sûr que leur caractère est bien éprouvé à cause de moi. Leur maîtrise de soi, souvent, ouf. Mais avec eux, je grandis. Avec eux, je peux m'épanouir. Parce que la réponse au chialage, à la plainte, il me semble, c'est le partenariat. Que Dieu crée des connexions entre les gens pour servir son royaume. Dieu place autour de nous des personnes avec qui l'on doit vivre. Dieu veut voir avec chacun d'entre nous une certaine complicité. Et je vais terminer par vous montrer une petite vidéo. Je vais dire pour terminer que de nos batailles de cette semaine, que nous puissions apprendre que des personnes se tiennent debout à nos côtés. Que Dieu nous aide à être le changement, à déplacer les arbres, à travailler dans cette complicité. Et puis soyons enseignables. Parce que le premier chant qu'on a chanté ce matin, c'est « Tu nous as créés pour bien plus. » Amen.